Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Marcel Ngoï, il est journaliste, il est éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa. Bonjour Marcel Ngoï.
Bonjour Guy Maté.
Et lui va nous rejoindre d'après un instant, c'est Johnson Ishara, il est membre de la société civile du Nord Kivu, il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente d'IGENEC RDC ASBEL. Il est aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique, activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Il va nous rejoindre. Et en ligne également depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Wackmann, elle est journaliste au journal Les Soirs. Bonjour Madame Colette Wackmann.
Bonjour Monsieur Massé, bonjour.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Marcel Ngoï, il est journaliste, il est éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa. Johnson Ishara, membre de la société civile du Nord Kivu, il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente d'IGENEC RDC ASBEL. Il est aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Wackmann, elle est journaliste au journal Les Soirs. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir plus d'un mois après l'occupation de Goma au nord qui vous parle, M23AC, quelle est la situation de la population habitant cette ville? Focus sur le dialogue national proposé par les évêques de la CENCO et de l'ECC à travers le pacte social pour la paix et le vivre ensemble dans le Grand Lac. Et enfin, quid de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale face à la reprise des affrontements armés dans l'est de la RDC. Nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la célébration de la journée internationale dédiée à la promotion des droits des femmes. En effet, ce samedi 8 mars, le monde célèbre la journée internationale pour la promotion des droits des femmes. En RDC, Madame la secrétaire générale au ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamoignan, a exprimé vendredi 28 février la volonté du gouvernement congolais de placer les femmes et filles au cœur de toutes les politiques du pays. Elle a dévoilé ses projets lors d'une journée d'information organisée au Salon Rouge de l'Hôtel du gouvernement en prévision de la Journée internationale des droits des femmes. Cette initiative nationale est menée dans le contexte actuel d'agression qui nécessite ainsi un engagement indéfectible de tous les Congolais. Cette année, la Journée internationale de la femme est placée sous le thème national « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». À cette occasion, un panier a été présenté comme support de communication et de sensibilisation en solidarité avec les femmes et filles victimes des atrocités dans l'est du pays. Cette rencontre a également offert l'opportunité aux participants d'échanger sur les activités phares prévues tout au long du mois de mars visant la promotion d'égalité des sexes, des paix et l'autonomisation des femmes et filles. Marcel Ngoï, cette journée est célébrée en RDC dans un contexte de guerre, un contexte où la femme est souvent exposée à toute forme de violence. Que vous inspire la célébration de cette journée en ces moments particuliers pour la RDC, Marcel Ngoï?
Oui, moi je pense que c'est important de consacrer une place importante dans le processus de prise de décision aux femmes congolaises. Et je pense personnellement que ce n'est pas le pagne qui fait l'affaire, mais la conscience de chaque femme.
Merci, Johnson Noïchara. Vous venez de faire votre entrée dans ces studios. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Guy. Bonjour à tous les auditeurs.
Et cette journée ne serait-elle pas une occasion propice de rappeler à tous les belligérants dans la guerre qui se vit dans l'Est, la RDC, la nécessité de promouvoir les droits des plus vulnérables que sont les femmes, les jeunes filles et les enfants?
Je pense honnêtement que cette journée devrait être dédiée, comme venait de le dire, à toutes ces femmes qui aujourd'hui restent des victimes par excellence de cette barbarie qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. L'occurrence, parce que quand on parle aujourd'hui des victimes, on voit à un grand pourcentage les femmes qui sont touchées. Je suis passé dans plusieurs camps de déplacés aux environs de Goma. J'ai trouvé qu'il y avait des femmes qui étaient en train de donner naissance aux bébés dans des bâches, et quand il pleut, au même moment que la cicatrice est encore là de la femme, le bébé est mouillé avec sa maman. Et je pense qu'il fallait plutôt garder une pensée pieuse à toutes ces femmes et dire à tous les seigneurs de guerre, à tous les belligérants d'arrêter, parce qu'il s'agit de l'intégrité humaine, il s'agit également de la vie qui doit être sacrée à tous les niveaux. Sauf que je ne suis pas, comme venait de le dire à mon prédécesseur, je ne suis pas d'accord pour un pays qui est en train de traverser des moments aussi des troubles comme ça, qu'on puisse consacrer une occasion en présentant un pagne. Ça ressemblerait également à une moquerie nationale, mais ce n'est pas intéressant. Le plus intéressant aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a des femmes qui ont fui leur village, qui sont en train de manger difficilement, qui sont en train de dormir difficilement, dont leurs enfants n'étudient plus. Ils n'arrivent plus à éduquer la maison parce que c'est la femme qui éduque la maison. Et qu'une journée dédiée à cette catégorie de personnes, je pense que ça devrait plutôt être une journée où on réfléchit davantage sur ce qui doit être fait et ne pas tomber dans le cosmétique.
Merci, Madame Colette McMahon. Il est dit que les gouvernements des pays occidentaux sont parvenus à accorder beaucoup de droits aux femmes, à tel point que la femme qui vit, n'est-ce pas, dans l'espace occidental, dans les pays occidentaux, ne se plaint pas assez dans ces pays. Et donc, on peut affirmer que la lutte pour la promotion des droits des femmes a atteint ses objectifs en Occident.
Oui, mais enfin, il y a quand même encore des problèmes qui se posent aux femmes, des problèmes d'égalité, d'accès à certaines professions. Et quand vous entendez les mouvements féministes, ils vous diront que le chemin est encore long avant l'égalité totale. Mais évidemment, par rapport à la situation des femmes du Congo et en particulier du Kivu, ça n'a malheureusement rien à voir.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Kafoul Mayaï de Rochero Taboulé. On se retrouve juste après.
Thank you. na kemekae na komona oyo nyonso mpo baboti balokinga natoto na kokonoma mobelisi ekofinga kanga biloko na kolia ekokita te na somo ya mobali aya kobomanga ngongo nzambe na kokamwa libala ya kopesa mawa mayai kolamba na kolamba ma ndako na kokoma maya mpena bilamba na kosukola nyonso akosenga na kobongisa ngongo nzambe nalembi komema libala ya kozanga bolingo mayai motema moko bamama libala ya bokoko maya motema nga nakembeka e o mama nakei mbeka e modiba mpe tiolemeketo ne mpasi mingi maya mwana tiotie kaba motiola ne o maya.
C'était Kafoul Maya et cette chanson à travers laquelle le Seigneur Rochero Taboulé relate le calvaire d'une femme victime de violences conjugales. Une question qui doit faire également l'objet, n'est-ce pas, des réflexions à l'occasion de cette journée dédiée à la promotion des droits des femmes. On rappelle que Taboulé nous a quittés le 30 novembre 2013 à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 73 ans. Paix à son âme. On revient à la côté cette semaine. Les habitants de Goma espèrent une sortie des crises qui n'arrivent toujours pas depuis l'occupation de leur ville par les M23, soutenus par l'armée rwandaise. Cette rébellion a pris possession de la ville de Goma le 27 janvier dernier. Depuis ces jours, l'avenir est devenu incertain pour la population, rapporte plusieurs témoignages. Dès les premiers jours de cette occupation, des centaines de familles ont fui la ville vers les pays voisins, Rwanda, Ouganda et Burundi, tandis que d'autres ont trouvé réfugiés dans différentes provinces du pays. Par ailleurs, la majorité des sites des déplacés ont été démantelés, obligeant leurs occupants à regagner leur village d'origine, parfois en dépit de l'insécurité. Plus d'un mois après, la vie reprend timidement, mais au ralenti. L'économie locale est gravement affectée, l'argent circule peu, les banques et institutions financières restent fermées et les échanges commerciaux sont perturbés. Cette situation fragilise davantage les pouvoirs d'achat des habitants et aggrave la précarité. Sur les plans sanitaires, les hôpitaux continuent d'accueillir un grand nombre de blessés de guerre. Les organisations humanitaires alertent sur les risques imminents des ruptures des stocks de médicaments en raison des difficultés d'approvisionnement. En ce qui concerne les activités scolaires, les écoles ont rouvert il y a 3 semaines, mais les cours restent perturbés. Certains axes routiers sont de nouveau praticables et le trafic lacustre entre Goma et Bukavu a repris. Cependant, l'aéroport de Goma demeure fermé, isolant encore plus la ville. Par ailleurs, le gouvernement congolais accuse l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ASC de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans les zones sous leur occupation. Madame Colette Bachmann, vous êtes journaliste au journal Le Soir. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler des conditions des habitants de Goma plus d'un mois après l'occupation de cette ville par les rebelles du M23 ASC soutenus par les Rwandais. On vous écoute.
Mais je suis rentrée de Goma, voici une dizaine de jours, et que quand j'étais là-bas, j'ai été vraiment effrayée par la situation, d'abord la situation humanitaire, le fait que les 600 000 déplacés qui se trouvaient dans des camps à l'extérieur de la ville, vivant sous des bâches, dans des conditions vraiment extrêmement précaires, ont reçu 72 heures pour quitter, pour vider les lieux, à pied, sans moyen de transport, sans aucune assistance logistique. Et donc j'ai vu, c'est la journée de la femme, des femmes qui portaient leurs enfants, qui devaient marcher à pied 70 ou 80 kilomètres jusqu'à leur village d'où elles avaient été chassées par la guerre. Et alors, après, j'ai appris qu'arrivant sur place, elles ont découvert que leur maison là-bas était détruite, leur champ était occupé ou bien avait été en train d'être être cultivée par d'autres. Et donc, Goma, c'est vraiment l'enfer pour les déplacés. Mais lorsqu'ils rentrent dans leur village d'origine, ce n'est pas mieux. La situation reste extraordinairement critique. Et alors, le deuxième point, c'est l'insécurité. Moi, j'étais témoin de fusillades dans les rues. On m'a raconté que la nuit, on va chercher des jeunes gens, on les emmène, on les soupçonne d'être des voisins lendo, des complices de l'armée. Il y a des enlèvements. On enlève des blessés dans les hôpitaux. Toutes les organisations humanitaires vous diront que la nuit, on vient chercher des blessés en les soupçonnant d'être des soldats qui auraient été blessés au combat. On les amène, on est sans nouvelles. Donc on est dans un déni absolu de droits de l'homme, de droits basiques des populations civiles. Et c'est vraiment un scandale à la fois politique, parce que c'est une occupation par un mouvement qui n'est pas légitime, et c'est un scandale humanitaire majeur qui se heurte aussi à l'impuissance de ceux qui voudraient aider la communauté internationale, parce que l'aéroport, qui est la ligne de vie pour les secours humanitaires, où les secours pourraient arriver, l'aéroport est toujours hors d'atteinte. Il a été délibérément, là j'insiste là-dessus, il a été délibérément démoli au moment des combats, et tous les instruments qui permettent aux avions d'arriver ont été détruits ou ont été emportés. Donc il y a un gros problème logistique, mais un problème humanitaire. Et donc Goma est la première ville qui est tombée entre les mains du M23, mais la situation est catastrophique et augure mal de ce qui pourrait se passer dans d'autres villes qui vont tomber entre les mains des rebelles.
Madame Colette Pacman, ce n'est pas une première expérience. Hein. La ville de Goma a été occupée par le M23 en 2012. Et cette même ville a été occupée en 1998 par le RCD pendant environ 2 ans. Et s'il faut faire la comparaison avec la situation d'aujourd'hui, y a-t-il des similitudes ou c'est différent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui?
Mais je n'étais pas là lors des cas précédents, mais j'ai quand même été frappée par le semblant d'ordre qui règne aujourd'hui. On vous dit que les rues ont été nettoyées, et ça c'est vrai, qu'un semblant d'ordre est revenu, mais c'est une façade. Les banques ne sont pas ouvertes, l'argent ne suit pas, le commerce n'a pas vraiment repris. La nuit, il y a de l'insécurité, surtout pour les jeunes gens. Les déplacés qui rentrent, rien n'a été prévu pour les accueillir, pour les encadrer. Je trouve qu'il y a cette fois-ci un degré de méchanceté et d'oppression à l'égard de la population qui est encore pire que ce qu'on a pu voir lors des occupations précédentes.
Merci, Johnson Ishara. Vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente du GENEC RDC ASBL. Vous êtes aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste et engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Vous êtes un habitant, n'est-ce pas, de la ville de Goma. Et aujourd'hui, il est dit que le M23 nouvelle version est plus virulent, intolérant, que le M23 de 2012. Si cela s'avérait vrai, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude du M23 nouvelle version?
Oui, je salue en passant Madame Colette Brockman qui vient de peindre un tableau exact sur ce qui se passe, sans être peut-être dans les détails. Il faut quand même avouer que moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une bonne chance ou une malchance, d'avoir vécu toutes ces situations. Voilà. Donc de 96 à 96 avec l'arrivée de l'AFDEL, de 98 avec l'RCD Goma, de 2012 avec le M23, je pense que il y a des épisodes qui sont quand même changeants quand on voit la situation, parce que la situation de 96, ils ont eu à faire face. Le fait qu'ils ont gardé le même parrain avec les mêmes ambitions, ils ont eu à faire face à Mzee Laurent Désiré Kabila, qui depuis Lubumbashi a perturbé tous leurs plans et qui s'est autoproclamé président de la République. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je pense que ils ont essayé d'échanger l'approche. En 98, ils viennent avec le RCD Goma. Enfin, tous ceux qui ont accompagné Mzee à Kinshasa rentrent à Goma pour dire ici c'est proche de chez nous, donc à tout moment nous pouvons rentrer chez nous. Et ils ont imposé une terreur à ce moment-là. Moi, je vous rappelle que moi, j'étais encore enfant à l'école secondaire. Je voyais comment ces mêmes gens crachaient dans le visage de nos parents, à l'air traitant de Vichuchu. Pour ceux qui connaissent bien Goma, Vichuchu, c'est la partie qui n'a pas de sucre d'une canne à sucre, donc pour signifier qu'il ne valait rien à ce moment-là. On demandait à nos parents, à nos aînés de faire des kilbits dans la boue à ce moment-là. Donc c'était une sorte d'humiliation pour montrer qu'on ne représente rien en termes de peuple. Et en 2012, je pense que Goma était tombé, mais je reste convaincu que dans leur plan, Goma n'était pas prévu que cet assaut. Parce qu'il y a une stratégie d'attaquer l'ennemi, mais il y a aussi une stratégie d'occupation. Occuper Goma, je reste convaincu que pour le plan de 2012, ce n'était pas envisageable. Parce que quand ils sont arrivés, la ville de Goma a infligé à l'ennemi une désobéissance civile à outrance. Je me rappelle que nous avons, à ce moment-là, nous étions dans des structures de la jeunesse. On nous avait brutalisés pour qu'on se rende et qu'on fasse un mémorandum disant que nous soutenons ceux qui sont là. Chose qu'on n'avait pas réussi à faire, mais au moins certains étaient brutalisés. On a senti quand même qu'il y avait un message de dire, voilà, nous sommes ensemble, ne vous en faites pas. Mais il n'y avait pas une situation telle que nous sommes en train de l'avoir aujourd'hui en 2025.
Et qu'est-ce qui peut expliquer cette virulence aujourd'hui?
Oui, ce qui explique, il y a plusieurs raisons. La première raison, comme je peux encore l'avouer, c'est que Goma a résisté pendant 3 ans. Pendant 3 ans, nous avons démontré que nous représentions la ville de la résistance citoyenne. Autour de Goma, il y a eu multiplicité d'armées, entre autres les unités spéciales, le FARDC dans leur organisation, le mercenaire, le résistant, et des résistants qui avaient également plusieurs groupes qui ont causé également du tort à l'ennemi dans certaines offensives. Il y a ce niveau-là. Le deuxième niveau, c'est qu'au niveau de l'armée numérique, la guerre numérique qui existait entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on a senti que, en tout cas, les grands bunkers de ceux qui étaient dans l'armée numérique étaient plus concentrés à Goma. Kinshasa n'avait pas beaucoup d'écho sur ce qui se passe sur terrain, que ce soit d'autres grandes villes. Alors ces gens-là, on devrait à tout moment les anéantir. La troisième raison pour moi, c'est que la population de Goma voulait quand même créer une rupture totale et rester un peuple loyal à la Constitution, c'est-à-dire nous aimons notre pays et nous devons protéger notre pays. Et surtout qu'il se rappelle encore la désobéissance que le peuple vivant à Goma les avait infligée en 2012. Alors pour lutter contre cette désobéissance, il faut créer une politique de la terreur. La terreur pour dire si vous n'obéissez pas à ce que nous faisons, ce que nous vous disons, vous allez subir. Voilà ce qui explique, voilà tout ce que je viens de vous dire, ce que Mme Colette Brackman venait de dire, les sabotage de l'aéroport, l'enlèvement des jeunes, je dois quand même avouer, je dois crier à haute voix que les jeunes sont en train d'être enlevés et apportés dans des endroits inconnus. Des malades, même des gardes malades, ce ne sont pas des militaires seulement qu'on est en train de chercher, on est en train de faire irruption dans les hôpitaux et on prend le malade. Les gardes malades, on les amène dans les destinations inconnues seulement pour imposer cette erreur à la population de Goma.
Merci. Marcel Ngoï, vous êtes journaliste, éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa. Il n'y a pas que Goma qui est occupé, hein. Il y a aussi Bukavu et toutes les autres localités sous occupation, n'est-ce pas, du M23. Et à Bukavu, par exemple, on rapporte qu'il ne se passe plus une nuit sans que la population ne soit la cible des hommes armés. Et la nuit dernière, plusieurs avenues du quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda et celle de Kadutu ont été secouées par des crépitements de balles. Marcel Ngoï, cette logique de terreur peut s'expliquer par quoi? Par le fait que, comme vient de le dire Johnson Ishara, la population semble résister aux nouveaux occupants?
Je suis en train de penser que la guerre qui arrive ici n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas une guerre accidentelle, occasionnelle. Ce n'est pas une guerre qui est fortuite. C'est une guerre qui relève de tout un plan consistant à déstabiliser, à partitionner et à balkaniser le Congo, avec l'idée d'installer toute une république dans l'Est. Et pour cela, ceux qui sont des artificiers ou ceux qui conçoivent ce type de stratégie utilisent toute forme de guerre. Il y a le front militaire que l'on voit avec la chute de Goma et même éventuellement d'autres villes du pays. Il y a le front médiatique. Il y a le front judiciaire sur lequel le Congo doit se battre pour revendiquer sa souveraineté, le respect de son intangibilité des frontières. Il y a le front économique Parce que, en fait, ceux qui se battent cherchent à faire main basse sur les richesses du Congo. Mais il y a aussi le front qui est politique. Parce que pendant que cette guerre se déroule, on cherche à utiliser les Congolais pour faire porter à ces Congolais la responsabilité de cette partition. Comme pour dire qu'en 98-97, il y avait eu Mouzé qui était arrivé, et puis plus tard, en 98, il y a eu le RCD. Bon, donc les similitudes qui se dégagent démontrent à suffisance que cette guerre est voulue d'avance et elle est planifiée. Si aujourd'hui, derrière l'M23, on voit le Rwanda, mais qui est derrière le Rwanda? À qui le Rwanda vend les minerais extraits du territoire congolais? Lorsqu'on entend parler de la signature d'un accord avec l'Union européenne, et puis la disproportion au niveau des mesures, des sanctions qui devaient être prises, qui restent jusqu'ici comme des larmes de crocodile qu'on continue à verser, sur le dos du peuple congolais qui paye les prix cash, et la facture est très salée aujourd'hui pour rétablir et restaurer la paix, moi je crois que ça devient un problème de tout le monde. Si on a parlé des femmes, il y a aussi la jeunesse qui est concernée, parce que le système éducatif en pâtit. Des écoles qui sont fermées, où la reprise des cours est timide, c'est lorsqu'on tue l'école qui est la base, qui permet aux jeunes d'être préparés aux responsabilités. Nous pensons que cette guerre n'est pas une guerre qui va se terminer seulement par un vrai faux dialogue avec les interlocuteurs qui ne sont pas les vrais acteurs de cette guerre. Même la démarche aujourd'hui des évêques ou de l'église, quand on dit la Senko et l'ECC, c'est une démarche qui peut être comme une sorte ce qu'on appelle l'hyperbole politique. On va aller donner des béquilles à Nanga et à tant d'autres pour leur dire que vous êtes fort, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites là parce que vous êtes dans les bons. Alors qu'en réalité, c'est une guerre de rapines, c'est une guerre d'occupation, c'est une guerre qui cache très bien les intentions, les velléités expansionnistes du Rwanda, avec la complicité des multinationales et de certaines superpuissances mondiales.
Merci. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le 3 mars 1944, naissait au Bandundu un certain Ndombe Opetum, alias Pepe Ndombe. Cet artiste musicien, auteur-compositeur congolais qui a évolué dans les orchestres africains internationaux, Ok Jazz et Bana Ok. Il serait encore vivant aujourd'hui, il aurait 81 ans. Mais il nous a quittés le 24 mai 2012 à l'âge de 68 ans. Et pour commémorer la date de sa naissance, nous allons écouter l'une de ses chansons intitulée Il est Youyou qu'il avait composé dans l'orchestre Ok Jazz, et on revient juste après.
Ba message ba ya ki poto sala reconciliation ton di maki ba bani isusu kote kura shekai yuyu moke na zara kalo fundo mingi bi pare na lolendo na kayo ese mina esangae ba boto linga bolingo ya sanga misa to pamba oni yuyu po profite poto sana kinga na yo yuyu moke oke ikolinga mwana ya moto ya mbongo na iko mwana ya mbola tobe kana denge nini ye Ma message ba ya ki poto sala reconciliation Toni maki, ba bandili susu kote kura shengai Yuyu moke, nazara kalu fundu mingi Bipane na lorendo na kayo, jese mina esatae Yuyu ahe, kazo kina mote mao Hemoraji eko tinga imongo he Nako kina zwa trublo Mama, oh, you.
Nous revenons dans cette émission Regard sur la côte de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côte de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la journée internationale pour la promotion des droits des femmes. Nous avons également analysé la situation des habitants de la ville de Goma plus d'un mois après son occupation par les M23 AFC. Participe à cette émission, Marcel Ngoï, il est journaliste et éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa. Johnson Ishara, il est membre de la société civile du Nord Kivu, il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente du GENEC RDC ASBEL. Il est aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann est journaliste au journal Le Soir. La délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'Église du Christ au Congo SSC a rencontré mardi 4 mars en Ouganda le président Yoweri Museveni. Leur échange a porté sur le retour de la paix dans la région des Grands Lacs dans le cadre de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, rapporte le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'SSC. Dans un message sur X, l'SSC explique qu'après échange très profond et éclairé, le président ougandais a bien accueilli cette initiative et a marqué son accord pour un dialogue franc autour de la paix dans la région. La même délégation avait échangé le 27 février à Brazzaville avec le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans le cadre du même pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. Depuis le 4 février, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo et ceux de l'Église du Christ au Congo avaient remis au chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, un projet contenant des propositions afin de sortir ces pays de la crise sécuritaire qu'il traverse dans sa partie orientale. Ils ont par la suite rencontré les présidents des institutions publiques, les leaders des groupes armés, les opposants et les chefs d'État de la région. À la fin de ces rencontres, ils déposeront un rapport au chef de l'État. Marcel Ngoï, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de ces sujets en vous focalisant justement sur le dialogue national proposé par les évêques de la CENCO et de l'SSC. On vous écoute.
Moi, je pense qu'il relève de la superstition. Parce qu'en fait, le fait de rencontrer des personnalités qui dépendent d'une vision qui consiste à partitionner le pays, ça ne donnera pas immédiatement les résultats auxquels on peut s'attendre. Et ce qui est bon dans la démarche, c'est que quand même l'Église s'implique pour voir comment ramener les consciences des Congolais vers les réalités de cette guerre. Parce qu'en fait, cette guerre, c'est une guerre qui a un grand soubassement économique. L'extraction de minerais qui doivent être vendus à des sociétés qui utilisent, par exemple, aujourd'hui, cela dans le traitement de ce qu'on appelle les technologies de pointe pour fabriquer les téléphones, les smartphones et tant d'autres instruments qui sont utilisés aujourd'hui dans l'économie numérique. Donc, ce n'est pas une guerre qui peut se terminer du jour au lendemain, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple promenade de santé que les Rwandais sont en train de faire au Congo. Ils sont venus pour à la fois extraire les minerais, vendre et puis faire face à leurs propres problèmes économiques pour la survie du Rwanda. Et derrière le Rwanda, il y a effectivement les superpuissances, comme je viens de le souligner, et que ce n'est pas demain, si vous avez parlé avec Nanga et consorts, que la paix peut revenir. Nous pensons que l'implication de l'Église intensifie quand même cet appel à l'éveil de conscience. Mais ce n'est pas suffisant, il faudra qu'à un moment donné, que le leadership de Félix Tshisekedi, qui a tendu la main dernièrement à l'opposition, que ce leadership s'exerce sur l'ensemble des acteurs ou des parties prenantes à cette guerre fratricide. Tout ce qui est utilisé aujourd'hui, que ce soit la misère, que ce soit le fait d'asphyxier l'économie par le fait du commerce qui est perturbé, le trafic sur le lac qui est perturbé, je ne pense pas qu'en une fois, tant que ces gens-là n'auront pas senti la puissance des feux, ces gens-là ne vont pas se retirer d'eux-mêmes. Ça pose à la République démocratique du Congo la problématique de la construction d'une véritable armée qui est restructurée, intégrée, une armée suffisamment équipée et suffisamment motivée pour faire face à cet affront qui n'a que trop duré. À mon sens, je crois qu'il faut un budget conséquent pour que l'armée ici que nous avons, qui ait de nouvelles recrues, qui soit bien instruite, et qui soit bien formé, bien entraîné pour faire face à la situation.
Oui, Marcel Ngoï.
Les jours que les gens vont sentir qu'il y a une puissance de feu réelle dans le Congo, alors je crois que la plupart là vont reculer.
Voilà, vous parlez de puissance de feu, mais on se rend compte que pour l'instant, sur les terrains militaires, la RDC n'est pas en bonne posture. Or, il faut sauver la situation actuelle.
Moi, je crois que les démarches consistant à rencontrer les superpuissances comme celles les rencontres qui ont eu lieu en Suisse, à Genève, que ce soit aussi la démarche vers l'ONU et tant d'autres superstructures qui ont des dimensions, qui peuvent avoir un mot à dire pour influer de manière décisive sur les velléités expansionnistes du Rwanda. Moi, je crois que cette démarche-là doit continuer sur le plan diplomatique. Mais en même temps, on doit renforcer la puissance de feu de l'armée nationale et solliciter tous les pays qui peuvent contribuer, y compris la Russie, pourquoi pas. Pourquoi ne pas solliciter le concours de tous les pays du monde qui peuvent aider le Congo à protéger sa souveraineté? Moi, je crois que c'est le moment de le faire. Le changement intervenu aux États-Unis peut être aussi une opportunité pour les autorités congolaises de s'approcher de tous les États, y compris les États-Unis, pour que dans leur marge de manœuvre, que ces pays-là puissent un jour, de manière courageuse, pousser les Rwandais à reculer.
Merci. Merci, Madame Colette Blackman. Au-delà des critiques formulées à l'endroit des évêques au sujet, n'est-ce pas, des consultations qu'ils ont initiées depuis quelques semaines, quel pourrait être le mérite de leur démarche, à votre avis?
Je crois que le mérite de leur démarche, c'est de garder le dialogue, garder la porte ouverte avec tout le monde, parce qu'il y a tout de même, je crois que les évêques sont porteurs aussi d'une réalité qui est le nationalisme, le patriotisme de l'ensemble de la population congolaise, et qu'eux-mêmes, ils ne souscrivent pas du tout à cette hypothèse d'une partition, d'une sécession du Kivu, et tout ça. Et donc, ce sont des gens qui sont patriotes, et sur cette base-là, de l'amour du Congo, locaux de la patrie, ils peuvent discuter avec tous ceux qui partagent ce point de vue, et les traîtres, les gens qui font le jeu des voisins ou de puissances étrangères vont se trouver assez rapidement exclus du dialogue, et je crois qu'on ne doit plus rentrer dans les erreurs qui ont été commises plusieurs fois par le passé, c'est qu'au nom du dialogue et de l'inclusivité, on engage des gens dont la priorité n'est pas l'avenir de leur propre pays, mais les intérêts d'un pays voisin, des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques ou sécuritaires. Mais si on roule pour un pays voisin, qu'on aille vivre dans le pays voisin et qu'on ne reste pas au Congo. Donc là, je crois que, j'espère que les évêques ne vont pas ouvrir la porte vers un nouveau compromis qui risque d'être de nouveau un jeu de dupes.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le contexte du moment pour justement éviter cette éventuelle compromission?
Mais je crois que la population congolaise s'exprime, elle est unie quand vous parlez avec les gens. Et d'ailleurs, il faut quand même se rappeler qu'on peut discuter des circonstances des dernières élections, des machines à voter qui se sont promenées, qui n'étaient pas dans les bureaux, etc. Mais moi, j'ai suivi ces dernières élections et la population, dans sa grande majorité, a été émue par un réflexe patriotique. Elle a cru, hélas, dans les promesses du président Tshisekedi, qui a dit... On va défendre notre pays, on va déclarer, on va résister aux ambitions des voisins, etc. Et c'est sur cette base-là que les gens ont voté pour lui. Malheureusement, ils ont été déçus parce que l'armée n'était pas à la hauteur, les préparatifs n'étaient pas suffisants, la force de frappe était supérieure, les alliances étaient douteuses, on peut dire beaucoup de choses. Mais je pense que dans son ensemble, la population congolaise, elle tient à l'unité du pays, au respect de ses frontières, et que là, c'est une base sur laquelle les évêques ou tout autre médiateur peut travailler et doit travailler. S'il veut une chance de succès, il faut tenir compte des aspirations de la population congolaise qui est patriotique, qui tient à l'unité du pays et qui ne veut pas qu'on remette en cause les frontières coloniales. On ne va pas refaire la conférence de Berlin en ce siècle-ci. Je pense que ça, c'est une utopie et il faudra que les voisins le comprennent.
Merci, Johnson Noichara. Et comment vous entrevoyez la suite de cette démarche des évêques de la CENCO et de l'ECC?
Je pense qu'il faut avouer que ces démarches étaient salutaires parce que dans un contexte où on avait des camps où personne ne voulait prendre les risques de briser la glace, ces démarches des évêques de la CENCO et de l'ECC, c'était pour dire nous en avons assez, il faut arrêter un peu parce que ce sont nos compatriotes que vous êtes en train de tuer dans vos conflits dont nous ignorons les tenants et les aboutissants. Je voulais également rappeler ici que quand ces évêques s'investissent dans une démarche de paix, il faut comprendre si ça s'inscrit dans quelle logique. Rappelons ici qu'au moins l'Église catholique, l'Église protestante représentent plus de 60% des écoles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ECC et l'Église catholique sont aussi à plus de 55% d'hôpitaux et centres de santé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et sans parler de tous les fidèles qui sont là, donc qui sont touchés, affectés directement dans le village, dans les coins et recoins que les hommes parfois investent et n'arrivent pas, donc ils ressentent la profondeur de cette douleur, et voilà pourquoi ils ont dit nous allons quand même nous y lancer. Ils ont rencontré les chefs d'État, ils ont rencontré le belligérant, et ils sont là maintenant pour donner, je pense, la conclusion de leur mission. Et je vois déjà que dans la sortie médiatique, la délégation de la CENCO et de l'ECC revient sur une conclusion qui semble être comme une tache d'huile en disant que toutes les parties consultées se sont mises d'accord sur un point. Et le point, c'était de dire au président actuel de partir. Alors, comment cette nouvelle va être récite et comment ça sera organisé?
Et l'on dit quand?
Déjà dans le point de presse que la CENCO venait de faire dans la dernière sortie, ils disent que tout le point, tous les consultés sont d'accord que le problème c'est Félix Tshisekedi. Alors, je pense qu'il faudrait maintenant voir comment mettre son point de vue ensemble pour émettre un rapport qui sera cohérent et savoir comment on va dégager la responsabilité des uns des autres. Mais je retiens seulement une chose, c'est que cette démarche a produit qu'il y avait quand même la possibilité de rapprocher les uns les autres et de trouver intérêt d'entente pour ne pas continuer à faire couler le sang dans la région orientale et que les combats politiques, les combats politiciens qui existent, on peut être à mesure d'atténuer. Seulement un point
points sur lesquels je n'ai jamais été d'accord dans cette démarche, c'est par rapport à ce que mon co-débatteur venait de dire, M. Ngoy, qui nous ramène... Je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'équipement de l'armée. Le problème n'est pas seulement de voir l'armée que n'est pas équipée, il n'y a pas de logistique. Moi, je pense que le grand problème aujourd'hui de l'armée, c'est cette architecture sécuritaire qui a été détruite. Détruite parce que dans un mois, trois mois, quelqu'un qui a été colonel, il peut monter des trois grades. Et pourtant, il y a d'autres qui étaient là, frustrés. Vous pouvez voir également comment le leadership militaire est mené au pays. Sur quelle base? Des gens dans une province comme le Nord Kivu, je le disais, je continue à les dire avant que même Goma ne soit contrôlée, dans une province en guerre, on pouvait retrouver 12 généraux qui sont dans une seule province et en train de mener des opérations. Donc ça veut dire que même ce que le militaire apprenne à l'académie militaire a semblé être détruit par la gouvernance actuelle. Donc il y a ces niveaux-là des gouvernances sécuritaire, il y a ces niveaux-là de leadership sécuritaire, ça peut permettre à notre armée d'être à mesure de riposter, parce que rien n'explique monsieur Marcel Ngoy, rien n'explique. Moi j'ai suivi cette guerre dès Bunagana jusqu'à Goma, nous n'avons ouvert le feu en premier à aucune bataille, donc nous sommes là, quand on nous attaque, nous ripostons, et ce qui se passe c'est que on a l'impression que nous battons pas pour reconquérir nos territoires, mais nous entendons à ce qu'on puisse nous attaquer pour qu'on commence à crier. Face à cette situation comme ça, c'est pas question de logistique, mais c'est plutôt la question de la gouvernance sécuritaire, c'est la question du leadership sécuritaire pour savoir comment nous faisons, comment nous nous préparons face à la menace.
Merci. Je rappelle ici que nous avons reçu dans l'émission Dialogue Congolais de jeudi soir, le révérend pasteur Eric Senga, qui est le porte-parole de l'ECC, l'Église du Christ au Congo, qui a plutôt dit ceci, que après avoir consulté tout le monde, il y avait unanimité sur le fait qu'il y avait nécessité, n'est-ce pas, de régler pacifiquement cette crise de l'Est. Voilà.
C'est aussi une très bonne chose.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Rebe avec Pongolov et on se retrouve juste après.
Oh, yeah.
rêver, cette composition du maestro Suzy Kassé interprétée par Pongolov, qu'on appelait la voix limpide du Zaïre. Une façon pour nous de rendre hommage à la femme à l'occasion de la journée internationale dédiée à la promotion de ses droits. Je rappelle que nous avons dans cette émission Marcel Ngoï, il est journaliste et il est éditeur du journal La Prospérité Paris Saint-Kinshasa. Johnson Ishara, il est membre de la société civile du Nord Kivu, il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente du Genèque RDC Asbel. Il est aussi chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. En ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Plaquemann, elle est journaliste au journal Le Soir. Lors de sa rencontre le 22 février dernier avec les membres de l'Union sacrée, le président Félix Tshisekedi a annoncé la constitution imminente d'un gouvernement de cohésion nationale. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de dépasser les divisions internes pour affronter les menaces extérieures. Il a également souligné la nécessité pour la classe politique de ne pas se laisser distraire par des querelles internes, des manipulations extérieures ou des relents tribaux. Objectif visé à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est lui de mobiliser toutes les forces politiques et sociales pour faire face à l'agression dans l'est de la RDC. Dans cette perspective, Félix Tshisekedi a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité d'entamer des consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Cette initiative du chef de l'État n'est pas de l'avis de certains membres de l'opposition qui estiment que cela ne serait qu'un nouveau partage des gâteaux plutôt qu'une solution aux véritables problèmes du pays. Johnson Ishara, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de ces sujets. On vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Ce que je voulais également, je pense que je voulais commencer par l'élément déclencheur de cette annonce où le président de la République a rencontré les députés de l'Union nationale, plutôt de l'Union sacrée de la nation, dans une réunion qui, au départ, j'estimais que le président de la République n'était pas président du bureau de l'Union de la nation. Il devrait plutôt se considérer comme président de la République et au besoin parler à tous les députés nationaux et écouter les uns les autres dans les cas d'espèce. Alors cela étant, l'annonce a été faite et a été récite de manière diverse. Alors on peut quand même projeter la même idée en l'observant sur deux niveaux. Le premier niveau ici, c'est l'intention de l'idée de pouvoir mettre en place un gouvernement de cohésion nationale. La deuxième idée, c'est le perspective pour ces gouvernements. Alors si nous revenons sur l'intention, je pense que le président de la République a tenté à plusieurs reprises, quand même nous rentrons sur le gouvernement qui était qualifié le gouvernement de cohabitation, où là on a vu la présence du FCC, comment ce gouvernement a fini son mandat et qu'est-ce qui s'est passé, les autres acquises les uns sur les autres, qu'il y a eu un problème de confiance et de non-respect des engagements.
La coalition FCC-CACH.
La coalition FCC cache, il y a eu un problème d'irrespect des engagements et ça fait ce que certains aujourd'hui ont même refusé à participer aux élections de 2023. Après ces gouvernements, il y a eu un autre gouvernement, le gouvernement de cohésion nationale, qui a ouvert la porte à la formation politique ensemble, qui a intégré également cette même intention de vouloir proposer à la République de nouveaux acteurs capables à répondre aux attentes du peuple. Mais comment ce gouvernement s'est terminé encore? Une fois de plus, la formation ensemble avait claqué la porte en disant encore une fois qu'ils ont été bernés. Il y a eu également le gouvernement actuel qu'on a, c'est le gouvernement que le président de la République a qualifié du gouvernement d'ouverture nationale. Et dans ce même gouvernement, il semblerait, sous réserve, qu'il y a certains opposants qui sont partis dans ces gouvernements d'ouverture. Alors, c'est quoi exactement? C'est là que ça nous envoie. Si on peut prendre déjà les petits tableaux qu'on vient de peindre, on risquerait de se poser la question, l'intention est bonne, mais qu'est-ce qui suit dans la pratique? Est-ce qu'on est concentré sur le projet porté par les gouvernements pour répondre aux attentes de la population? Est-ce qu'on peut également savoir, déjà le gouvernement d'ouverture nationale n'a que, je crois, si je ne me trompe pas, 6 mois déjà, dans le 6 mois, quelle est la menace sécuritaire qui a été résolue et comment cette question a été abordée par l'actuel gouvernement comparativement au gouvernement précédent? Alors, si on n'arrive pas à répondre à ces préalables, ça ferait également froid au dos aux autres dans où on va tendre la main pour dire venez aussi, mais venez pour faire quoi? Parce que ceux qui sont là ont été appelés dans le même contexte que nous, et quand nous allons arriver, on risquerait de faire encore face à un gouvernement légalement qui est connu, mais de l'autre côté il y a un gouvernement officieux, et le gouvernement officier qui pèse lourdement sur le gouvernement officiel, c'est l'ensemble de tout l'entourage constitué des conseillers très puissants du président de la République qui se substitue parfois à ministres. Moi j'en ai rencontré certains à Goma qui sont venus même exécuter une activité qui est censée être exécutée par un ministère. Je pense que ça crée maintenant du froid au dos de l'autre côté pour dire nous ne voulons pas, la main elle est tendue, mais nous avons également des urgences. Alors si jamais la deuxième analyse en termes de perspective, c'est de dire si on accepte que enfin on lance les consultations pour le gouvernement de cohésion nationale. Déjà, le président de la République a chargé son conseil spécial en matière de sécurité, qui a été précédemment également son directeur des cabinets. Les consultations d'abord pour le gouvernement d'ouverture, ça a pris à la République 2 mois d'Iran. On n'a pas trouvé un point d'entente. Et pourtant, c'est un gouvernement que on devrait avoir des animateurs venant de l'Union sacrée, dont cette Union sacrée était déjà majoritaire à l'Assemblée nationale, mais ça nous a pris 3 mois. Combien de mois ça va nous prendre le gouvernement encore de cohésion nationale, sachant qu'il y a un obstacle pour ceux qui ne veulent pas intégrer ces gouvernements? Quelle sera la suite de l'Assemblée nationale et les Sénats, sachant que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire à l'Assemblée? Est-ce qu'on va passer directement à la dissolution de la Chambre haute et l'Assemblée basse? Donc voilà tout le débat face aux enjeux de l'ère aujourd'hui qui se présente, qui est, j'estime à mon niveau, que ça ne pouvait pas être une priorité parce que nous avons une menace en face. Monsieur Guy, la menace c'est que la ville de Goma est sous contrôle de l'ennemi. La menace est que la ville de Bukavu est sous contrôle de l'ennemi. La menace est qu'on ne sait pas comment les enfants vont continuer à étudier. Il y a des questions cruciales comme ça qu'il fallait résoudre dans toute urgence. Mais on ne va pas créer encore un autre débat politique et politicien à l'interne, sachant que nous avons une priorité. Je suis d'accord qu'on puisse dire lèvons-nous, comme on a lancé la campagne Téléma congolais, mais les Congolais sont debout. Ce que je vais rappeler, les Congolais sont debout. Il reste maintenant que le gouvernement soit de plus en plus debout pour répondre aux urgences sur terrain. Et c'est à cela que je pense que l'attention devrait être concentrée.
Merci, Madame Colette Blackman. Est-ce que vous comprenez la position des opposants qui estiment qu'y aller de cette manière équivaut à faire un partage des gâteaux plutôt qu'à proposer, n'est-ce pas, des solutions aux véritables problèmes du pays? Ces opposants souhaiteraient, n'est-ce pas, au préalable un dialogue entre les forces politiques et sociales avant d'envisager la mise en place de ce gouvernement d'union nationale. Madame Colette Blackman.
Moi, je crois qu'il faut d'abord un sursaut national, parce que ici, les enjeux dont on discute, ce sont des tractations politiques, mais tout ça paraît un peu futile, un peu artificiel, alors que la vraie menace, elle est bien différente. La menace, c'est la désintégration du Congo, c'est l'éclatement du pays, c'est la séparation de grandes zones de l'Est, et c'est ça qui est en train de se passer. C'est donc l'unité du Congo qui est en cause. Alors, faire des tractations politiques, c'est aussi futile que voici quelques mois discuter de changer la constitution. C'est pas de ça qu'il est question. Il faut que les patriotes s'unissent avec le chef de l'État, mais sans tractation, sans marchandage de boutiquier, parce que l'urgence, elle est bien différente, et je pense que la population ne comprendrait pas qu'on fasse des tractations avec de l'argent à la clé, des ralliements, etc. Je pense qu'il faut une union nationale sincère, dictée par l'urgence, face à un ennemi commun.
Merci Marcel Ngoï. Dans les contextes du moment, avec la tournure, n'est-ce pas, qu'a pris cette situation d'insécurité dans l'est du pays, qu'est-ce que ces gouvernements d'union nationale pourraient avoir comme impact sur cette guerre du M23 AFC?
Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège du cercle vicieux. On reprend les mêmes stratégies et on reconduit les mêmes erreurs. On prend le pouvoir, on donne aux rebelles, ce pouvoir-là est comme une prime à la guerre. Alors ces rebelles auxquels on donne le pouvoir, on les intègre dans l'armée, on fait le brassage, le mixage, à la longue, ça ne permet même pas de bâtir une armée, comme je le disais tout à l'heure, une armée républicaine qui est efficace. Moi je crois qu'il faut qu'on change de procédure et de stratégie. Parce que vous allez constater vous-même qu'il y avait un débat au pays sur la révision de la Constitution qui a débouché sur un autre paradigme qui consistait à parler plutôt du changement de Constitution. Alors, la guerre ici, c'est une guerre pour mettre fin à ce discours-là et pour même projeter les gens vers le 2028 où il y aura la fin du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Donc la guerre là a ses objectifs qui, semble-t-il, sont en train de se matérialiser parce que même en politique ici, dans le microcosme politique, on ne parle plus de constitution. On parle de Goma et de Bukavu. Donc on parle beaucoup plus maintenant d'un gouvernement d'union ou de cohésion nationale qui est en réalité un nouveau dépeçage de la République en termes de partage des postes de responsabilité. Ça ne peut pas aider le Congo à avancer parce qu'on tourne autour du pot.
Merci beaucoup. Hein. Je considère ça comme votre conclusion et c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté, n'est-ce pas, d'y participer. Madame Colette Takman, M. Johnson Ishara et M. Marcel Ngoy. Merci aussi à André Mongou qui est à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Élisée, cet autre classique d'Ndombe Opetum dans l'orchestre Banaoke, une façon pour nous de continuer, n'est-ce pas, à commémorer la date de sa naissance. On écoute donc Élisée et on se retrouve le samedi prochain.
soy